Il est 1h du matin à Gaza. Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est minuit. L'actualité du monde en 10 minutes sur la radio du monde. C'est avec vous, Paul Lancin-Spinelli. Bonsoir mon cher Paul.
Bonsoir mon cher Zéphirin, merci et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur RFI. La fin du calvaire, plus que jamais espéré par les habitants de Gaza et les otages israéliens après 15 mois de guerre. Les derniers détails d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas sont en cours de finalisation selon le bureau de Benjamin Netanyahou, le premier ministre de l'État hébreu. Un plan en plusieurs phases qui débutera dimanche. Il comprend notamment le retrait partiel des troupes israéliennes du territoire palestinien et un échange de prisonniers palestiniens contre des otages du Hamas. Un appétit des flammes en voie d'accalmie à Los Angeles, les prévisionnistes météo américains entrevoient un apaisement des vents qui attisent le brasier une semaine après le début de ces gigantesques incendies qui ont tué 24 personnes au moins. Sur place, les enfants des familles touchées par la catastrophe commencent à retourner à l'école. Au Kosovo, le Premier ministre continue de cibler la communauté serbe à trois semaines des législatives. Et puis l'intelligence artificielle qui aurait bien pu tromper la chef du gouvernement thaïlandais, victime d'une tentative d'escroquerie par téléphone d'un nouveau genre. C'est peut-être la fin du cauchemar pour les Gazaouis et otages retenus par le Hamas. Un accord de trêve a été annoncé ce mercredi entre Israël et le mouvement palestinien. Selon un communiqué du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, publié il y a 2 heures, les derniers détails étaient en train d'être finalisés. Cet accord, c'est le fruit d'un long travail de négociation mené par les 3 médiateurs principaux, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Il doit être décliné en plusieurs phases avec, pour commencer, le retrait partiel des troupes israéliennes et un échange de prisonniers palestiniens contre les otages du Hamas. Daniel Valo.
L'accord entrera en vigueur ce dimanche et la première phase doit durer 42 jours selon les déclarations du Premier ministre qatarien. Dans un premier temps, le Hamas doit libérer 33 otages tandis qu'Israël rendra la liberté à plusieurs centaines de prisonniers palestiniens. Les otages israéliens seront libérés par petits groupes en commençant par les enfants et les femmes. Dans une deuxième phase, un autre groupe d'otages sera libéré et il devrait s'agir cette fois de soldats et d'hommes en âge d'être mobilisés. Parallèlement à cet échange entre Israël et le Hamas, l'accord prévoit un arrêt des hostilités avec un retrait progressif des forces israéliennes et le retour des Palestiniens déplacés vers le nord du territoire. Si tout se déroule comme prévu, une seconde phase entrera en vigueur au bout de 6 semaines, seconde phase qui devrait aboutir au retrait complet des troupes israéliennes. Resterait alors à régler d'autres questions concernant l'après-guerre, la reconstruction de Gaza et bien sûr le sujet le plus difficile, celui de la gouvernance du territoire. Benjamin Netanyahu ayant déclaré à plusieurs reprises qu'il refuserait d'accepter que Gaza soit dirigé par le Hamas ou même par l'autorité palestinienne.
Daniel Valo, et j'ajoute que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est entretenu par téléphone avec Donald Trump et Joe Biden ce mercredi soir, les remerciant pour leur aide afin de trouver un accord sur la libération des otages. Cet accord de trêve, il a été accueilli très positivement au sein de la communauté internationale. Parmi les dernières réactions, celle de la diplomatie saoudienne par exemple, qui salue les efforts déployés par les médiateurs et exige un retrait des troupes israéliennes en dehors de la bande de Gaza. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a, lui, réclamé d'acheminer de manière accélérée de l'aide humanitaire sur le sol gazaoui. Selon les médias d'État égyptiens, les pourparlers sont d'ailleurs en cours pour rouvrir le point de passage de Rafah à la frontière entre Gaza et l'Égypte. Les organisations humanitaires se préparent déjà. Le comité international de la Croix-Rouge se dit, par exemple, prêt à augmenter massivement son aide pour Gaza. Des vents qui s'essoufflent enfin à Los Angeles, ravagés par les flammes. Les prévisionnistes météo américains s'attendent en effet à une nette amélioration dans les prochaines heures, plus d'une semaine après le début de ces incendies gigantesques qui ont fait au moins 24 morts. Prudence toutefois, selon les pompiers, plusieurs points chauds sont toujours actifs dans le secteur. Malgré cette lutte qui continue donc, malgré ces 12 000 habitations parties en fumée, les habitants de Los Angeles tentent de retrouver un semblant de vie normale. L'école a par exemple repris pour certains enfants de familles sinistrées. Notre envoyé spécial Achim Lippold est allé à leur rencontre.
C'était un moment chargé d'émotions. Il s'agissait des enfants du quartier Pacific Palisades, en grande partie dévastés par les incendies. Leur école primaire a été complètement détruite, mais ils ont été accueillis par une autre école située dans le quartier de Brentwood. Là-bas, des classes spéciales ont été aménagées pour ces petits réfugiés du feu. Les enfants étaient tout excités de retrouver leur maîtresse, leurs camarades de classe et une certaine normalité scolaire aussi dans une situation qui reste extrêmement compliquée et stressante. La plupart d'entre eux ont perdu leur maison. Aujourd'hui, ils vivent chez des amis de leurs parents, dans des Airbnb ou parfois dans une seule chambre d'hôtel. 4 personnes dans un espace restreint, c'est loin d'être évident. Et puis, il y a le stress des parents qui ne savent pas où aller ni comment se reloger. Les loyers sont exorbitants, le marché immobilier saturé. Une mère, les larmes aux yeux, m'a confié qu'elle devait quitter l'hôtel où elle séjourne d'ici 2 semaines pour des raisons administratives. Elle a pris des congés pour chercher un logement pour sa famille, mais la tâche semble insurmontable. Malgré tout, elle m'a dit sa joie de voir ses enfants retourner à l'école, retrouver une routine et un peu de distraction. Achim Lippold, Los Angeles, RFI.
Dans l'ouest de la Russie, une attaque de plusieurs drones a mis le feu à un dépôt pétrolier dans la région de Voronezh. C'est ce qu'a annoncé son gouverneur mercredi soir. Cet incendie intervient alors que le président ukrainien était en visite en Pologne, Volodymyr Zelensky, qui a dénoncé l'attaque russe survenue, elle, la nuit dernière sur des installations gazières ukrainiennes notamment. En plein hiver, la cible des Russes reste inchangée. Notre secteur énergétique, a déploré le dirigeant ukrainien. Il a également appelé ses alliés occidentaux à utiliser les 250 milliards de dollars d'actifs russes gelés, et ce afin de financer l'armée ukrainienne. Les Serbes du Kosovo, de nouveau dans le collimateur du Premier ministre kosovar. Les élections législatives vont se tenir dans 3 semaines dans ce pays des Balkans. Albin Kurti active donc une nouvelle fois ce levier répressif. Cela fait partie de sa stratégie en vue du scrutin. Il a demandé ce mercredi à la police kosovare de fermer plusieurs bâtiments administratifs utilisés par cette communauté, Laurent Rouy.
Pour le ministre de l'Intérieur du Kosovo, pas question de permettre le moindre parallélisme, ce sont ses mots, ni encore moins une activité criminelle de la Serbie. Ce commentaire a accompagné une opération de police ce matin, pendant laquelle les forces de l'ordre ont fermé 10 antennes municipales, dont une dans la capitale Pristina, financée par Belgrade et qui fournissait des services administratifs à la minorité serbe. Le ciblage d'institutions utilisées par la communauté serbe est devenu monnaie courante au Kosovo, où les autorités ont fermé des bureaux de poste, des banques, interdit l'importation de produits de consommation s'ils sont fabriqués en Serbie et banni l'utilisation du dinar serbe. Elles s'en prennent aussi, mais verbalement, aux hôpitaux et aux écoles qui ont du mal à se fournir en médicaments et en manuels scolaires. Cette politique de fermeté du Premier ministre Albin Kurti est populaire au Kosovo, un pays où les Serbes sont toujours ostracisés 26 ans après la guerre entre les deux communautés. Elle devrait profiter au parti du Premier ministre alors que des législatives auront lieu le mois prochain. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Elle ne s'est pas laissée tromper par la voix du robot. La première ministre thaïlandaise Petongtan Shinawatra a récemment décelé une tentative d'arnaque téléphonique basée sur l'intelligence artificielle. Les malfrats ont voulu lui soutirer de l'argent à la chef du gouvernement thaïlandais, donc en usurpant la façon de parler d'une dirigeante de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, Yelena Tomic.
Au bout du fil, une voix se présentant comme un dirigeant de l'ASEAN. Le message audio demande à son interlocutrice de faire un don. S'ensuit un lien par SMS renvoyant vers un compte en banque situé hors de Thaïlande. Petongtan Shinawatra soupçonne alors une arnaque. La fille de l'ancien premier ministre et milliardaire Thaksin, qui a récemment dévoilé sa fortune personnelle de près de 400 millions d'euros dans une déclaration d'intérêt, a voulu alerter le public sur cette tentative d'escroquerie nouvelle génération, qui utilise des méthodes de plus en plus sophistiquées pour tromper ses victimes. Et de fait, les escrocs ont fait usage de l'intelligence artificielle pour se faire passer pour un dirigeant connu d'un pays étranger en vue d'arnaquer la victime. Les réseaux d'arnaque en ligne sont devenus un véritable fléau en Thaïlande. Récemment, une arnaque massive à l'assurance maladie auprès de 200 000 retraités japonais a permis de détourner plus de 8 millions d'euros. Les réseaux opèrent également chez le voisin chinois, Birman, allemands ou cambodgiens, ce qui contraint Bangkok à prendre des mesures transnationales en collaboration avec les autorités régionales.
Yelena Tomic. Et puis en football, le nord de Londres s'est paré de rouge et de blanc ce mercredi soir. Arsenal a remporté le derby contre Tottenham 2-1 pour le compte de la 21e journée de Première Ligue. Les Gunners se reprennent la seconde place du championnat à 4 points du leader Liverpool. RFI, il est minuit 10 à Paris, 23h10, temps universel.